Bonsoir à tous. Deux acronymes pour un même projet, TAFTA, TTIP, STOP ou encore et après. Sur fond de contestation citoyenne, Barack Obama est arrivé à Hanovre pour en discuter avec sa fidèle alliée, la chancelière Angela Merkel. Alors que s'ouvrira demain à New York un 13e round de négociations en vue de l'obtention d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Rappelons qu'avec ce traité, on parle d'organiser la plus grande zone de libre-échange au monde. Mais 7 ans après le vote du Parlement européen favorable à la construction d'un marché intégré, 3 ans après le début des négociations, craintes et réserves sont donc de plus en plus nombreuses et structurées des deux côtés de l'Atlantique. À commencer par la France, qui menace de brandir son veto si nos intérêts ne sont pas pris en compte. Alors que demande exactement la France? Jusqu'où est-elle prête à aller pour être entendue? Opportunité économique, synonyme d'échange et d'ouverture à ses débuts, pourquoi ce traité est-il devenu pour beaucoup un très mauvais symbole? Opacité, déséquilibre, égoïsme nationaux, le projet de traité transatlantique est-il en train de s'autodissoudre? Stop ou encore? Nos invités ce soir, Elvire Fabry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'action extérieure de l'Union européenne et des négociations relatives au TTIP auxquelles vous avez consacré de nombreux articles. À vos côtés, Thomas Porcher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business, co-auteur de TAFTA, l'accord du plus fort, un petit ouvrage paru aux éditions Max Milo en 2014. Et puis enfin, on vous a déjà présenté le socialiste Matthias Fekl qui intervenait tout à l'heure dans le journal de 18h. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Secrétaire d'État au commerce extérieur, vous êtes en charge de ce dossier et donc du suivi de ce dossier, de ces négociations, tant que faire se peut, en tout cas depuis votre arrivée au gouvernement, à la faveur d'un mini-remaniement, c'était il y a moins de 2 ans. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture, bien sûr, mais aussi sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez ajouter votre voix au débat, hashtag et après.
Dimanche et après. Olivier Jesper.
Citoyens et peuples du monde libre, nous sommes Anonymous. Ce message est un message important concernant le nouveau traité transatlantique TAFTA.
Transatlantic Free Trade Agreement.
Plus nous serons nombreux, plus nous nous ferons entendre. Ensemble, nous arrêterons TAFTA.
David Cameron,
Barack et moi-même restons parmi les plus déterminés à mener à bien un accord d'échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous travaillons dur pour faire avancer le projet parce que cela apporterait des millions à nos économies et permettrait de mettre au point des normes que les autres pays du monde pourraient suivre.
Ils étaient près de 35 000 dans les rues de Hanovre. À la veille de l'arrivée de Barack Obama dans la ville, les manifestants mettent la pression.
Ce partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est un bon moyen de favoriser la croissance. C'est le point de vue de Barack Obama en visite à Hanovre ce dimanche. Avec Angela Merkel, il défend farouchement cet accord. Ce sera l'un des thèmes majeurs de leur discussion.
Quand, monsieur le Premier ministre, avez-vous inscrire, comme nous vous l'avons demandé, un bilan étape des négociations du traité transatlantique? Quand allez-vous porter dans l'espace public tous ces sujets qui concernent la vie quotidienne des Français et pas des affaires de technocrates? Quand allons-nous faire de ce traité un enjeu politique et plus un enjeu de spécialistes? Le Parlement l'attend et les Français l'attendent.
Nous sommes inquiets de la tournure que prennent ces discussions. Et le gouvernement français, le président de la République d'ailleurs, ont déjà eu l'occasion de dire que nous ne pourrions pas accepter des négociations qui mettraient en cause nos services publics, un certain nombre de nos produits, notre agriculture, notre culture. Donc nous sommes extrêmement attentifs.
La France, elle a fixé ses conditions. La France, elle a dit, si il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de transparence, si pour les agriculteurs il y a un danger, si on n'a pas l'accès au marché public et si en revanche les États-Unis peuvent avoir accès à tout ce que l'on fait ici, je n'accepterai pas. Voilà ce que j'ai dit. La
Merci.
France, elle peut toujours dire non.
François Hollande, pour conclure ce rappel sonore lié au TAFTA, au TTIP. Matthias Fekl, les négociations auraient dû être conclues fin 2014. Elles ont pris beaucoup, beaucoup de retard. Vous, vous y croyez encore ?
De moins en moins. Ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis ce sujet maintenant, qui pose beaucoup de problèmes de fond. Je pense qu'on y reviendra tout au long de cette soirée. Mais quand on voit la manière dont les négociations évoluent ou n'évoluent pas, ou évoluent dans le mauvais sens, force est de constater que on s'éloigne, c'est le moins qu'on puisse dire, de la conclusion d'un accord. J'ai eu l'occasion de dire dès l'année dernière que si les choses ne changeaient pas, la France se retirerait des négociations. Je considère aujourd'hui que nous approchons de ce moment beaucoup plus que de s'en éloigner.
Vous avez justement accepté très gentiment notre invitation. Ça veut dire aussi que l'agenda en termes de communication était bon pour vous sur ce sujet. Vous diriez aujourd'hui que vous êtes là pour en faire la promotion de ce traité ou pour le casser ?
C'est pas de la communication. Et ça fait plus de 18 mois que je travaille là-dessus. J'ai l'occasion à nombreuses reprises de m'exprimer sur le sujet, y compris lorsque les médias nationaux se moquaient totalement du sujet et qui passaient totalement en dessous des écrans radars, où seule la presse locale, et je dois le reconnaître, France Culture.
Pas France Culture, vous étiez ici même, notamment début octobre, juste après vos déclarations chez Frédéric Martel.
Absolument, mais il y a un certain nombre d'autres médias qui se sont intéressés au sujet, mais globalement, on peut pas dire quand même que ça ait beaucoup intéressé. Alors maintenant, beaucoup de médias, mais découvrent le sujet et considère que c'est bizarre qu'on en parle maintenant. Moi, ça fait 18 mois que j'en parle, et surtout que je travaille dessus. C'est une négociation très sérieuse, dans lesquelles il y a de l'emploi en jeu, il y a des intérêts économiques en jeu, il y a aussi des principes en jeu sur qui décide, comment on négocie, qu'est-ce qui est public ou pas. Donc c'est tout sauf de la communication. C'est des enjeux de fond, c'est de la politique au sens le plus élevé du terme, des politiques publiques qui sont en cause, c'est ça qui est posé aujourd'hui.
Alors une petite question quand même, un socialiste tendance souverainiste à la barre de ces tractations transatlantiques, ça me manque pas de piquant quand même. Est-ce que vous vous sentez parfois à contre-emploi sur ce dossier ?
Non, mais tendance souverainiste, je vois pas à quoi vous faites allusion. Ce qui est important, c'est d'avoir une puissance publique et qui soit capable d'édicter des règles et de les faire respecter. Et ce qui est important pour demain, c'est que cette puissance publique puisse aussi agir au niveau international, au niveau européen. On est dans des économies ouvertes, qui sont imbriquées avec les économies européennes, mais aussi avec les économies du monde entier. Mais ça ne doit pas signifier qu'on subit purement et simplement la loi du plus fort, la loi du marché. Ça fait 30 ans que c'est installé dans les esprits que le marché en tant que tel apportait la croissance, l'emploi, la richesse, le bonheur, pourquoi pas. Et on constate bien, il suffit de regarder dans de nombreux territoires en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, que ce n'est pas le cas et que la promesse de la mondialisation heureuse n'est pas au rendez-vous. C'est un fait, je le constate. Ça fait pas de moi, je pense, un souverainiste, bien au contraire. Mais l'attachement à la puissance publique et à la capacité pour les démocraties, pour les citoyens, d'être associés à la définition des règles et de les voir respectées, ça oui, ça me semble un combat indispensable pour la gauche de demain.
Donc pas de contradiction personnelle, vous porterez le message de la France sur ce dossier. Reste à comprendre justement quelle est la position de la France. L'arrêt pur et simple des négociations, vous l'envisagez encore sérieusement aujourd'hui, c'est ce que vous venez de nous dire. C'est une option que vous avez mise sur la table effectivement en septembre dernier, une menace qui a été réitérée par François Hollande la semaine passée dans l'émission Dialogue Citoyen. La France peut toujours dire non. La France, elle, a fixé ses conditions, une anaphore qu'affectionne particulièrement le président. Alors la France a-t-elle reçu les gages réclamés de réciprocité et de transparence pour ne pas mettre sa menace à exécution ?
Non. Les conditions, elles sont extrêmement précises. Et encore une fois, cette stratégie, je la bâtis depuis plus d'un an et demi. C'est d'abord la transparence. Il y a eu des progrès. Nous avons obtenu l'accès des parlementaires aux documents de négociation. C'est indispensable pour pouvoir avoir un contrôle démocratique. Et de nombreux parlementaires nationaux se sont déjà rendus dans les salles pour pouvoir vérifier les choses. Ça, c'est qu'un début. Transparence est absolument insuffisante dans cette négociation comme dans d'autres. Moi, je suis favorable à ce que tout puisse être mis sur la place publique et qu'on puisse faire de l'open data sur ces sujets. Les conditions, c'est ensuite la question des fameux tribunaux d'arbitrage, les tribunaux privés qui permettent d'attaquer des choix de politique publique devant des juridictions d'exception, on va dire. D'où ma proposition, désormais reprise par l'Europe, une cour de justice commerciale internationale, avec des juges publics, avec des règles publiques, avec de la transparence, avec l'interdiction des conflits d'intérêts, pour qu'on puisse, dans l'économie mondialisée, fixer des règles mondiales et les voir respectées. Et puis, c'est un certain nombre de définitions, de priorités sectorielles, de lignes rouges, comme on dit, sur les services publics, sur la diversité culturelle, sur l'agriculture, les choix alimentaires, la défense des indications géographiques et des appellations auxquelles nous sommes attachés, ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs, avec Stéphane Le Foll. Il y a ensuite la question des services, des règles financières communes sur la finance. Donc, et puis la question des PME, et comment donner accès au marché américain aux petites et moyennes entreprises françaises. Alors, mais sur tous ces sujets, aujourd'hui, aucune garantie. Les choses ne bougent soit pas du tout, soit insuffisamment, d'où la position, mais qui est cohérente depuis longtemps de notre pays, d'en tirer les conséquences si ça ne bouge pas.
Un certain nombre de ces sujets vont justement être au cœur de ce 13e round des négociations qui va s'ouvrir demain. Juste une question, si vous n'avez pas obtenu les garanties nécessaires, pourquoi la France reste à la table des négociations ?
Vous savez que la France n'est pas à la table des négociations, c'est l'Union européenne, la Commission européenne qui négocie, et la France suit cela comme l'ensemble des gouvernements. Donc nous évaluons les choses sur la base des réalités.
Qu'est-ce voilà, qui se pourquoi passe la France n'a pas encore dit non?
Mais parce que nous regardons la réalité des négociations. Et encore une fois, dans le courant de cette année et dans les mois qui viennent, si ça ne bouge pas, nous en assumerons toutes nos responsabilités. Mais vous savez, le but, c'est de pas faire les gros bras et de dire non, non, etc. C'est une négociation. Nous regardons la réalité des choses. Mais si à la fois nos intérêts économiques et des principes extrêmement forts, l'attachement à la démocratie, l'attachement à la transparence, le contrôle démocratique, parlementaire et citoyen ne sont pas au rendez-vous, la France s'en retirera. J'ajoute...
Vous ne bluffez pas, en fait.
Mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu.
Ces sujets-là... C'est une négociation.
Oui. Derrière, il y a des emplois qui sont en jeu. Il y a la question de la désindustrialisation française. Il y a aussi, et européenne, parce que les résultats de la montée continue de l'extrême droite qu'on constate partout, elle sort pas non plus de nulle part. Ni en Europe, ni aux États-Unis. Et quand, par ailleurs, je voulais ajouter un critère, c'est la question de l'environnement. On peut pas négocier en décembre à Paris la COP21 et par ailleurs être engagé dans des négociations commerciales qui ne prennent pas en compte cet enjeu majeur pour toutes les générations à venir.
Et on va y revenir, c'est un sujet cher à Thomas Porcher.
On y reviendra, ouais. Il est très important. C'est pourquoi j'ai défini dans la stratégie commerciale française l'idée que les normes environnementales doivent être contraignantes au même titre que les normes commerciales. Pour que le commerce ne prime pas sur l'environnement et que quand on négocie de manière cohérente. Ça, c'est moderne, c'est l'avenir, c'est surtout indispensable pour demain.
Elvire Fabry, vous qui connaissez bien les rouages européens, un petit exercice de politique fiction. Si la France choisit l'option arrêt des négociations, qu'est-ce que ça va changer? Puisque de toute façon, les États n'ont pas directement voix au débat, Mathias Fekl nous le rappelait à l'instant, c'est Bruxelles qui négocie au nom des pays et des peuples européens. Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, je crois que dans ce débat, il faut indéniablement tenir compte du fait que négociateurs américains et européens viennent de faire des déclarations en début d'année en disant qu'ils voulaient accélérer les négociations et viser de conclure d'ici fin 2016. Donc ça précipite aussi un petit peu les termes de la discussion. La déclaration de Mathias Fekl sur un potentiel retrait de la France des négociations à une visée, si vous me permettez, à une visée de, à un objectif qui est d'exercer une pression supplémentaire sur la partie américaine à un moment où on aborde des dossiers très complexes de la négociation. On est en train de rentrer dans le dur des dossiers avec l'ouverture des marchés publics, avec le volet agricole, surtout si on se propose d'accélérer les négociations. Maintenant, est-ce qu'on est à l'heure actuelle en posture d'évaluer véritablement? On voit dans quelle direction on va. Il y a un message fort qui vient d'être prononcé entre la France et l'Allemagne, et qui est présenté aux Américains, qui est de présenter des objectifs ambitieux de négociation et de pousser les Américains à y aller, à faire des propositions plus ambitieuses. Donc ça, c'est un objectif. On n'en est pas encore, il me semble, au stade d'évaluer véritablement.
Donc il ne vous semblerait pas, à vous, Fabrice, judicieux pour l'instant que la France choisisse d'arrêter les négociations? Mais si elle le faisait, pour des raisons politiques, pour des raisons diplomatiques, qu'est-ce qui se passerait?
C'est une négociation, comme vient de le rappeler le ministre, c'est une négociation qui est menée au niveau européen, au niveau des 28. Donc on n'est pas...
Donc on ne peut pas dire non.
On n'est pas encore à l'heure actuelle. Il s'agit pour le moment de poursuivre, de voir véritablement ce qui va être mis sur la table, ce qu'on peut obtenir de part et d'autre. Il y a des attentes très fortes de part et d'autre. On attend beaucoup, encore une fois, sur les marchés publics. Ils attendent sur le volet agricole. On ne va pas céder sur le volet agricole sur lequel on a des intérêts offensifs très importants. On ne va pas céder sur la coopération réglementaire. On sait très bien que la Commission européenne s'est engagée à ne pas faire venir rentrer sur les marchés européens ce qui était interdit jusqu'à présent. Donc ce sera protégé. Les tarifs agricoles ne seront pas abandonnés du jour au lendemain. C'est une négociation qui est dure. Alors il y a la partie négociation où il y aura des compromis qui devaient être trouvés, et puis il y a la partie coopération réglementaire où là, ça n'est pas un enjeu de négociation, c'est un enjeu, il s'agit de voir ce qui peut être fait à équivalence entre des normes équivalentes et là où on peut réussir à enlever des barrières non tarifaires. Je pense qu'il faut partir du principe que là, on est en train de discuter des enjeux qui sont très techniques. et qui sont des dossiers complexes. Le règlement des différends, en effet, avec cette proposition qui est venue de la France et de l'Allemagne, de la création d'une cour permanente. Mais il ne faut pas perdre de vue les objectifs de long terme, géoéconomiques, géopolitiques. Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette négociation et dans quel contexte mondial d'évolution de nouvelles puissances émergentes qui sont de plus en plus concurrentielles pour les économies et pour les économies européennes, et qu'est-ce qu'on veut tirer de cette négociation? Il ne faut pas perdre de vue cet élément quand on revient sur les éléments de discussion entre Américains et Européens.
Thomas Porcher, Mathias Fekel, j'essaie juste de comprendre, hein, qu'est-ce qui se passe si la France dit non? Puisqu'elle agite cette menace.
Je pense que si la France dit non, c'est quand même la deuxième puissance de la zone euro, et je pense que tout s'arrête, et ce serait un vrai échec, parce qu'il y a une dimension, comme vous l'avez dit, géopolitique dans ce traité.
On disait pareil au moment du référendum européen.
Hein. Oui, effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler, c'est vrai. C'est que, oui, il y a une machine bureaucratique de la Commission européenne qui peut nous refaire repasser quelque chose à laquelle on a dit non, même si on est une grande puissance, c'est vrai. Maintenant, pour revenir à ça, il y a une dimension géopolitique. Il y a vraiment une dimension géopolitique. Il y a une montée en puissance des émergents. Et donc, c'est pas qu'économique, c'est aussi géopolitique, ce traité transatlantique. Si le but, c'est d'imposer aux pays émergents des normes sociales élevées, des normes environnementales élevées, et de leur dire, voilà, la plus grande zone de commerce international du monde se fait sous la contrainte des 2 degrés, donc la contrainte de l'accord de Paris sur le climat, se fait avec des normes sociales élevées, des normes environnementales élevées, là, effectivement, les émergents seraient obligés de le prendre, et là, le traité serait un bon traité. Mais sauf que le traité, c'est pas ça, aujourd'hui, la direction dans laquelle va le traité. Les études de la Commission européenne qui annoncent des créations d'emplois se basent quand même sur une diminution des normes. Donc, il y a plutôt une volonté de diminuer des normes que d'augmenter les normes sociales et environnementales. Et moi, pour moi, c'est le politique qui doit faire les réglementations, c'est pas les multinationales qui doivent faire les réglementations. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des multinationales américaines qui sont quand même en position de force, hein, sur les 10 premières multinationales dans le monde, vous en avez 8 qui sont américaines, 0 européennes. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces multinationales pour négocier et faire en sorte qu'il va en sortir des normes beaucoup plus élevées? C'est faux. Donc moi, je trouve ça. Et là, on voit bien une dernière chose. Après, je rendrai l'antenne.
Non, parce que Elvire Fabry n'est pas du tout d'accord avec vous sur ce point-ci. Sur la question de l'harmonisation des normes et du nivellement par le bas, vous pensez que c'est plutôt la protection maximale qui l'emportera en cas de négociation?
C'est pas ce que disent les modèles de la Commission.
On est en train de mettre en place d'imaginer, de concevoir un mécanisme qui est un mécanisme précurseur où on essaye de travailler sur les écarts de réglementation. L'objectif, là, encore une fois, c'est pas de négocier, de dire nous allons abaisser notre niveau d'exigence sur telle norme et vous abaisserez votre niveau sur telle autre. C'est de travailler à niveau d'équivalence. Et ce qui veut dire que cette coopération réglementaire, elle sera relativement restreinte dans certains domaines. Mais les régulateurs ne sont pas en mesure, c'est pas un travail entre négociateurs, c'est un travail entre régulateurs. Ils ne sont pas en mesure d'abaisser le niveau d'exigence des normes. Et par ailleurs, la Commission européenne, dans sa stratégie globale pour le commerce qu'elle a présentée cet automne, a mis noir sur blanc le fait qu'elle, l'objectif serait même d'élever le niveau. Dans la mesure du possible, quand on peut, il y a sur le volet normes du travail, le volet normes environnementales, il y a l'ambition, à l'heure actuelle, faut voir à quoi on arrive, mais d'élever ce niveau d'essayer de ne retenir que la norme la plus élevée. Et c'est là où on a des attentes importantes, il faut voir jusqu'où on arrive.
Je me permets de réagir là-dessus. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement. Et il faut regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, sans qu'on ait ouvert complètement la porte aux multinationales américaines, il y a quand même un nivellement sur tout un tas de réglementations à la baisse, notamment on l'a vu sur les problèmes de pollution au diesel, on l'a vu également sur par exemple le chocolat tout simplement, où en Europe est passée quand même une réglementation qui permet d'abaisser le niveau de cacao, de le remplacer par des matières végétales 10 fois moins chères tout en gardant l'appellation chocolat. Donc dire qu'aujourd'hui il n'y a pas déjà un nivellement vers le bas des normes par la pression des multinationales, parce que excusez-moi, certains régulateurs de la Commission européenne, bizarrement, ne sont pas hermétiques aux lobbies qui sont à Bruxelles. Et dire que Bruxelles, ce n'est pas une ville où il y a des lobbies, faut pas être non plus naïf, un petit peu. Tout n'est pas noir, je suis d'accord, mais tout n'est pas blanc non plus.
Mathias Fekel, vous voulez départager peut-être Elvire Fabry et Thomas Porcher, ou donner votre avis?
Deux spécialistes qui connaissent très bien le sujet, pas départager, simplement.
Nous ne sommes pas engagés sur ce sujet sur
telle ou telle posture tactique. Les sujets sont beaucoup trop graves pour cela. Et la France, comme elle l'a toujours été sur ce genre de sujet, sera au rendez-vous de ses principes et des valeurs qu'elle porte dans cette négociation. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que je travaille depuis ma prise de fonction.
Sauf que vous venez de nous dire que la France ne négocie pas. D'ailleurs, vous n'irez pas, vous, demain, Mathias Fekel, à New York, pour l'ouverture des négociations du 13e round. Vous ne serez pas autour de la table.
Ce sont les règles européennes.
D'accord, il y a des négociateurs qui sont mandatés, oui, par l'Union européenne.
Et bien évidemment, mais vous ne pensez pas une seule seconde...
Mais avec quel mandat ?
Si la France dénonce ces négociations et en demande la continuation, vous ne pensez pas une seule seconde que les négociations vont continuer. Il y a des réalités politiques en Europe, il y a des réalités d'un grand pays au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire de considérer notre pays de manière tellement étriquée que sa parole ne porterait plus en Europe, c'est quelque chose de stupéfiant. Si la France décide, si l'Allemagne décide que ces négociations doivent s'arrêter, elles s'arrêtent, et heureusement. La politique doit l'emporter sur je ne sais quel juridisme et sur des processus tatillons que certains voudraient nous imposer. Non, les sujets là-dessus sont pas simplement techniques. Et c'est la nouveauté de ces négociations. On ne peut plus négocier, et c'est ce que vous disiez, Madame Fabry, sur ce traité comme avant. Quand vous êtes dans du pur des barrières douanières ou tarifaires, vous pouvez dire « je te donne un peu dans tel secteur, en contrepartie tu me donnes un peu dans tel autre ». Quand on est sur des normes de sécurité... On peut pas dire, je te donne, tu baisses un peu ta sécurité dans l'alimentation, en contrepartie, je baisse un peu la mienne dans la santé publique, ça marche pas. Et donc, il faut négocier de manière totalement différente là-dessus, en prenant les normes les plus élevées de chaque côté, en donnant aussi beaucoup de regards citoyens. Et c'est pourquoi ça inquiète aujourd'hui ? C'est parce qu'on est dans d'autres types de négociations, que les gens savent très bien que ça va impacter leur vie quotidienne, et que donc, ils veulent avoir un droit de regard. Et il y aura plus jamais... d'accord réussi de ce type si la transparence n'est pas faite et si les citoyens ne sont pas impliqués d'emblée sur les négociations qui leur sont proposées.
Alors Elvire Fabry va plus loin, hein, même pour vous, pour l'heure, on n'en est plus au compte d'apothicaire, ces fameux intérêts contre intérêts, ces échanges qui ont pu être faits jusqu'ici dans les négociations, on n'en est plus à la mise en balance de nos intérêts respectifs. Vous estimez que ce traité est avant tout aujourd'hui un choix politique, une stratégie d'engagement dans un monde de plus en plus interdépendant. À propos de volonté politique, la commissaire européenne, la suédoise Cecilia Malmström, qui dans un entretien ce week-end trouve franchement un peu étrange que la plus forte contestation vienne d'Allemagne, elle compte, c'est ce qu'elle dit, sur Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel pour expliquer au public allemand pourquoi cet accord est si important et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Pour comprendre la position de l'Allemagne, on a surtout entendu depuis ce matin la voix du vice-chancelier allemand, le ministre de l'économie social-démocrate Sigmar Gabriel, mettre en garde les Américains s'ils ne font pas de concessions, le TTIP va échouer. Alors Elvire Fabry, on croyait les dirigeants allemands plutôt acquis à la cause du libre-échange. Sous la pression de leur opinion publique, on découvre qu'au sein de la coalition gouvernementale outre-Rhin aussi, ce traité est quand même assez loin de faire l'unanimité. Comment vous l'expliquez ? Vous êtes allé mener ce débat à Berlin. Hein.
C'est même à Berlin que l'opinion publique, dans un pays qui est très historiquement très favorable à l'ouverture des échanges, c'est là qu'on trouve l'opinion publique la plus sceptique à l'heure actuelle. Il y a un sondage cette semaine qui vient de...
Oui, 17% seulement serait favorable aujourd'hui.
Exactement, ce qui est très bas. Alors, il faut tenir compte du fait qu'il y a un taux important d'individus qui répondent, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas entendu parler quand même.
Mais pourquoi ? Pourquoi ce scepticisme ?
Alors, en Allemagne, ces craintes se portent beaucoup justement sur cet enjeu de coopération réglementaire. C'est beaucoup, c'est la crainte de la précaution. Les Allemands sont particulièrement attachés à cet enjeu, au respect du principe de précaution, et ont des interrogations sur ce qui pourrait être, ce qui sortira de cette négociation. Et c'est là où, indéniablement, plus il y a de mise en débat, d'explications, d'engagement clair de la Commission européenne. Ils sont venus un peu tardivement, parce que c'était pas le cas pendant la première partie des négociations avec l'ancien commissaire au commerce. Avec Cecilia Malmström aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a des engagements qui sont quand même beaucoup plus clairs, beaucoup plus audibles. Maintenant, il y a un enjeu de mise en débat qui est important. Mais c'est vrai que le débat doit aussi s'élargir un petit peu au-delà de ces enjeux de techniques. À la perception de l'impact de l'ouverture des échanges. Il y a indéniablement une interrogation en Europe qui fait écho au malaise que l'on sent côté américain, puisqu'on voit qu'actuellement on a des candidats aux élections présidentielles qui se sont alignés derrière les positions de Donald Trump, Bernie Sanders, pour s'opposer aux accords de libre-échange. Il y a une inquiétude un peu plus profonde, ça exprime une inquiétude sans doute un peu plus profonde des classes moyennes qui s'inquiètent de l'interdépendance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui d'un monde global très très intégré. Ça se porte sur le commerce, ça se porte sur l'immigration. Donc il y a des questions de fond qu'il faut aussi aller chercher et écouter pour essayer de comprendre.
Et même au-delà justement des altermondialistes qui se sont très tôt emparés de ce sujet, au-delà des classes moyennes qui ont peur, une éventuelle peur d'un déclassement après avoir pu émerger, vous l'évoquez, à la faveur et des révolutions industrielles et de l'ouverture des échanges, on a récemment notamment entendu des patrons français lors d'un colloque consacré à ce sujet au MEDEF émettre eux aussi de sérieuses réserves. C'est-à-dire que l'opposition, la contestation est quand même en train de s'élargir, Thomas Porcher. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une puissance très forte des multinationales américaines. Et vous regardez certains secteurs, l'informatique, les trois premières sont américaines. Vous regardez la grande distribution, vous en avez 7 sur 10 dans les 10 premières qui sont américaines. Donc, dans les négociations, il y a des chances que les normes du plus faible, à savoir donc les entreprises européennes, s'alignent sur ces normes américaines, y compris sur tout un tas de normes techniques. Donc, moi, je pense que si on regardait secteur par secteur, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant au final. Vous savez, le libre-échange n'est pas égal à croissance tout le temps. Ça, c'est un vieux mythe qu'on nous a dit. Le libre-échange égale à croissance quand vous êtes en position de force. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre l'accord du plus fort. Donc oui, quand vous êtes Google, vous avez tout intérêt à vouloir que ça s'ouvre. Vous n'en avez même pas besoin puisque vous êtes déjà en position de force. Quand vous êtes une Mercedes, c'est vrai que normalement vous êtes en position de force pour aller conquérir un marché. Mais sur tout un tas d'autres secteurs, il y a des chances que la concurrence entraîne des pertes d'emplois et voire des disparitions de certaines entreprises. Sachant que la plupart des entreprises en Europe font du commerce entre elles. Donc on va ouvrir la porte à d'autres sociétés américaines. Les Américains ont une politique monétaire et budgétaire beaucoup plus réactive que la nôtre en Europe. Donc on joue franchement pas du tout dans la même catégorie. Et donc ça reste quand même une inquiétude, il faut le dire.
Mathias Fekel, une alliance possible sur ce dossier entre la France et l'Allemagne? Est-ce que vous avez le sentiment que nos positions sont en train de se rapprocher sur ce dossier du TTIP, je vais y arriver?
J'ai depuis le début de mon action au gouvernement travaillé avec l'Allemagne en permanence, avec mon homologue, secrétaire d'État au commerce extérieur, et avec le vice-chancelier Sigmar Gabriel. Nous avons aux différentes étapes coordonné le travail. C'est vrai sur la transparence, c'est vrai sur la Cour de justice commerciale. Au lendemain du jour où j'ai formulé cette proposition, je me suis rendu à Berlin pour voir si nous pouvions avancer ensemble. Ça a été le cas, et c'est pour ça que c'est devenu le consensus européen porté maintenant par la Commission. Et c'est pour ça, moi, je ne considère absolument pas que l'avenir passe par le travail dans un seul pays replié sur lui-même. Absolument pas. Simplement, il faut un agenda progressiste sur tous ces sujets. On sait très bien que dans la Grande Coalition, il y a un débat, y compris entre le SPD et le CDU. Et la CDU, pardon. Et que les lignes entre la chancelière et le vice-chancelier sont sans doute pas tout à fait les mêmes. Le gouvernement de la France travaille avec ceux qui, dans le gouvernement allemand, suivent ces sujets-là. Mais il faut aussi prendre en compte ce qui s'est passé depuis 30 ans. Ça fait 30 ans, peut-être un peu plus, que tout le monde sur ces accords promet que accord de libre-échange égale croissance, égale emploi, égale amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat. On voit bien que ce n'est pas au rendez-vous. Il suffit de sortir de Paris et regarder ce qui se passe dans notre pays pour voir que ça ne fonctionne pas. L'augmentation de richesse, elle est vraie pour les fameux 1%, peut-être un peu plus, mais pas pour les classes moyennes. Si dans toute l'Europe, si dans notre pays et si aux États-Unis, il y a des tendances de fond qui se dégagent, c'est parce que ça en dit long sur la situation des classes moyennes et des classes populaires face à tout cela. Il y a besoin de réhabiliter un vrai débat dans la pensée économique. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ceux qui prônent la concurrence libre et non faussée pour tout le monde feraient bien de se l'appliquer aussi dans le domaine de la pensée économique. Et ça fait 30 ans que vous avez une seule école qui a pignon sur rue, qui affirme des choses qui, à l'évidence, sont fausses. Les résultats sont là aujourd'hui.
18h45 sur France Culture, TAFTA, stop ou encore? On en parle avec le secrétaire d'État chargé au commerce extérieur, Mathias Fekel, avec la politologue Elvire Fabry, chercheur à l'Institut Jacques Delors, et avec l'économiste Thomas Porcher.
France Culture, dimanche et après. Olivia Jespère.
Si je veux savoir quelque chose sur l'état des négociations du TTIP, je dois signer ce formulaire d'une dizaine de pages dans lequel je m'engage à ne rien révéler.
Vous voulez bien me fournir, voilà, ça.
Ça, j'ai signé.
Voilà, ah, c'est, voilà, c'est parfait.
Parce que je risque plein de choses, là.
Ah, voilà.
Je peux aller en prison.
Oui, c'est ça.
Que vous voulez d'autre,
alors? Votre portable, si vous l'avez.
Oui.
Voilà. Voilà. Merci.
Mais j'ai
beaucoup.
Plus de stylo, là. Vous avez un stylo pour moi, ou pas?
C'est. Tout vous voulez. Ah,
bon. J'ai de la chance, alors.
Le député européen Emmanuel Morel, qui a tenté de consulter les documents relatifs au TTIP, au TAFTA, pour y accéder, il a dû se rendre dans une salle de lecture sécurisée. Et là, c'est carrément Fort Knox. Un eurodéputé traité comme un espion potentiel, voilà ce qu'il dit, il dénonce une mascarade. Nous, on se dit, un peu plus simplement, mais qu'est-ce qu'ils ont donc à cacher d'aussi énorme, Thomas Porcher?
Quand on a quelque chose à cacher, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre, hein, moi je pense.
Enfin, les négociations sont à huis clos. C'est que les comptes rendus de débats, sont quasiment inaccessibles, même pour un eurodéputé. Comment expliquer un tel déni de transparence?
Voilà, c'est un déni même de démocratie. Hein. Allons plus loin. C'est très très grave que nos élus n'aient pas accès à ce qui se passe dans ces négociations. Et excusez-moi, si elles sont pas publiques, si on ne peut pas avoir accès aux documents et les documents qui sont donnés après les négociations sont d'une banalité affligeante, si on n'arrive pas à savoir sur des choses qui vont concerner l'ensemble de notre vie, l'alimentation, les services publics. Enfin, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux.
C'est qu'il y a un loup dans la bergerie, peut-être.
Vous savez, Suzanne Georges, qui était une économiste, excusez-moi, je termine disait que les multinationales ont peur de la lumière, sont comme des vampires. Bah là, on voit bien qu'il y a un problème de lumière, effectivement.
Elvire Fabry.
Mais on parle de quoi? On parle d'une négociation. On parle d'une négociation dans laquelle les États-Unis n'ont pas envie de voir circuler partout leur position, et c'est bien de ça, parce que quand les textes qui sont dans ces salles de lecture sont les textes qu'on appelle techniquement les textes consolidés, où il y a la position américaine, la position européenne. À la demande des États-Unis, qui ne veulent pas voir divulguer partout leur position, il y a des conditions de consultation de ces textes qui ont été mis en place. Maintenant, les parlementaires européens, les parlementaires nationaux ont accès à ces textes. Maintenant, il faut qu'ils aillent plancher, il faut qu'ils aillent regarder. Évidemment que ce sont des textes techniques, évidemment que ce sont des textes qui ne peuvent pas être lus, synthétisés. D'abord, c'est une négociation qui avance progressivement. Je pense qu'il ne faut pas hurler au loup en se disant dans quelle direction va-t-on. On va pouvoir progressivement, au fur et à mesure que se déroule cette négociation, y voir plus clair. Mais c'est pas un chapitre après l'autre qui est en train de se clore et sur lequel on pourrait nous faire un compte-rendu.
Ne pas hurler au loup, Mathias Fekel, sauf si le loup est dans la bergerie.
Ce problème de transparence est absolument majeur. Moi, je réunis au Quai d'Orsay régulièrement la société civile, les syndicats, les ONG, les fédérations professionnelles et les parlementaires pour leur dire ce qui se passe. Nous avons obtenu des progrès sur l'accès des parlementaires nationaux aux documents de négociation. Vous savez que jusqu'en début d'année, ils devaient se rendre à l'ambassade des États-Unis s'ils souhaitaient consulter les documents. Et moi-même, membre du gouvernement en charge de suivre ce dossier, si je voulais totalement respecter les règles et être conforme de ce point de vue-là, je devais aller à l'ambassade des États-Unis. C'est inimaginable. Donc il faut d'abord que tout le monde ait accès aux documents. Et puis par ailleurs, c'est une très vieille manière de faire. À l'heure de Wikileaks, à l'heure des réseaux sociaux, vous pouvez plus négocier en cachette, c'est terminé. Les gens veulent savoir, et croyez-moi, au final, ils savent. C'est-à-dire que des informations fuitent, donc c'est la pire des manières de faire. Il faut tout mettre sur la place publique. Ce qu'on peut pas assumer devant ces opinions publiques ne mérite pas d'être discuté.
Thomas Porcher.
Je suis entièrement d'accord. Et ce qui m'embête, là, c'est dans ce que vous avez dit, et là encore, ce que vient de confirmer monsieur le ministre, c'est que c'est à la demande des États-Unis, vous l'avez dit deux fois, à la demande des États-Unis. Donc, voilà. Pour moi, il y a un rapport de force. On n'est pas sur le même niveau de jeu. On devait aller consulter nos élus, et notre ministre vient de le dire, on devait aller consulter à l'ambassade des États-Unis. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, non, voilà.
Thomas Porcher, je rappelle que vous êtes le co-auteur de TAFTA, l'accord du plus fort. Une question là-dessus, justement, Elvire Fabry. L'Union européenne ne réduira pas au silence le Parlement français. Au début du mois, Mathias Fekel, vous avez reçu le soutien au rassemblé derrière vous une soixantaine de parlementaires qui prêchent en l'espèce pour leur paroisse au premier degré, c'est-à-dire la représentation nationale, et qui demandent au gouvernement de ne pas apposer sa signature sur un accord qui n'aurait pas au préalable été soumis aux parlements nationaux. Quelle légitimité démocratique aurait un tel traité s'il est signé, Elvire Fabry?
Un traité commercial, il est appelé à être ratifié au niveau du Conseil européen, où sont représentés les États membres, au niveau du Parlement européen, Et s'il concerne des compétences mixtes, c'est-à-dire qui concernent à la fois les États membres et l'Union européenne, devant les assemblées nationales.
Donc les 28 parlements nationaux.
Les 28 parlements nationaux.
L'Angleterre, le Royaume-Uni décident de nous quitter.
Absolument. Pour l'accord entre les États-Unis et entre l'Union européenne, pardon, et le Canada, on saura. C'est la Cour de justice européenne qui va décider. Déjà pour l'accord bilatéral entre l'Union européenne et Singapour, c'est la Cour de justice européenne qui doit décider si oui ou non c'est un accord mixte et qui doit être ratifié au niveau des assemblées nationales. Derrière se profile la ratification de l'accord avec le Canada. Vraisemblablement, ça devrait être assez similaire avec celui de Singapour. Pour le TTIP, comme de toute façon la commissaire au commerce veut introduire un volet lutte contre la corruption dans cette négociation, ça concernerait à ce moment-là une compétence mixte et d'office ça entraînerait une ratification devant les parlements nationaux et c'est une chose qui serait une bonne chose parce qu'en effet il y a un enjeu de légitimité nationale.
Mathias Fekel, j'aimerais revenir sur ce que vient de nous dire Thomas Porchet, cette idée de la loi du plus fort. Washington pour Washington et Bruxelles, il s'agit, on le sait, avec ce TAFTA de créer un géant économique capable de tenir tête à la Chine. C'est une stratégie qui est à la fois commerciale et géopolitique, d'où l'implication personnelle de Barack Obama dans ce dossier, qui a rendez-vous aujourd'hui avec la chancelière allemande à Hanovre. Personnelle aussi de Barack Obama sur le Brexit, puisqu'il était à Londres hier et qu'il a publiquement plaidé pour le maintien du Royaume-Uni dans la zone euro, aux côtés de David Cameron, qui lui a rappelé son engagement en faveur du TTIP. Une intervention qui fait aussi écho aux idées défendues toute cette semaine et la semaine passée par l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, de passage en France ces derniers jours, et qui dans son livre « Et les faibles subissent ce qu'ils doivent », appelle à sauver l'Europe. Il présente aussi l'Europe comme une création américaine, pensée par les New Dealers au lendemain de la guerre, comme une base arrière économique conçue pour tourner avec un moteur franco-allemand. Est-ce que vous êtes aussi dans cette idée, vous la percevez, cette espèce de mainmise américaine sur ce dossier du TAFTA? Mainmise historique.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire et de citer. Bon, mais sur le sujet TAFTA, il y a une volonté très forte des États-Unis de défendre leurs intérêts. Ils sont extrêmement offensifs et comment leur en faire le reproche? Ils font leur travail. L'Europe doit faire le sien. C'est ce à quoi nous veillons, mais très sincèrement, la commissaire européenne, Madame Malmström, est très offensive sur ce sujet. Elle a repris toute une série de travaux. Elle est beaucoup plus attentive que son prédécesseur aux différents aspects démocratiques et de transparence. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de positif. Mais
autrement dit, vous avez parlé de valeurs communes entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts communs? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas plus d'intérêts communs que d'intérêts divergents?
Mais la proclamation théorique selon laquelle il vaut mieux fixer des règles communes pour la mondialisation avec les Américains est juste, évidemment. Et c'est très important. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Il y a des intérêts communs à faire valoir et on est plus proche des États-Unis que beaucoup d'autres pays dans le monde. Ça, c'est vrai. Simplement, dans la réalité des négociations, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. D'où la position française. Mais nous souhaitons évidemment pouvoir discuter avec les Américains de toute une série de sujets. Mais quand vous regardez la réalité des intérêts offensifs que nous défendons, ils sont nombreux, ils ne sont pas pris en compte aujourd'hui. Et nous nous éloignons de l'idée initiale qui était « fixons ensemble des règles fortes, offensives et ambitieuses pour les porter dans le monde entier ». Ça, c'est une ambition louable. Elle n'est pas au rendez-vous aujourd'hui.
Un mot, Thomas Porchet, sur cette carotte qui est souvent mise en avant, celle de l'emploi. L'un des bénéfices de ce traité, c'est évidemment de conquérir des nouveaux marchés, permettre aux entreprises de faire des économies par l'uniformisation ou l'harmonisation des normes et surtout, nous dit-on, de créer des millions d'emplois. La vérité, c'est que toutes les prévisions en la matière sont très incertaines, voire contradictoires et donnent lieu à de nombreuses batailles d'experts. Qui peut promettre aujourd'hui que le TTIP ne se solde pas sur des destructions massives d'emplois et d'entreprises d'ailleurs pour les PME plutôt que sur des créations?
C'est vrai. Déjà, quand on regarde les 4 études qui ont été commandées par la Commission, les modèles pourraient faire l'objet de gros débats dans la science économique, les modèles utilisés. Rien n'assure qu'effectivement, si on ajuste nos normes, ça créerait de la croissance et des millions d'emplois. Il y a eu des contre-études qui ont été faites aux États-Unis. Donc vous voyez, le citoyen, d'un côté, on lui dit que ça va créer 2 millions d'emplois, de l'autre, on lui dit que l'Europe va en perdre 600 000. Donc on comprend bien que le citoyen soit perdu. Et moi, je pense que la seule boussole que l'on a aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'on nous a promis dans les traités de libre-échange passés et ce qu'on a obtenu. Et quand on regarde par exemple sur le marché unique, le rapport Széchenyi en 88 promettait plus de 6% de croissance et des millions d'emplois. On n'a pas eu ça. Le NAFTA, on nous promettait des millions d'emplois. Il y a eu 1 million d'emplois perdus dans le maïs au Mexique, 1 million d'emplois sur les bas salaires de perdus aux États-Unis. Ça, c'est un rapport de l'économique politique qui a été fait après coup. Donc quand on regarde le passé, effectivement, les promesses sont rarement au rendez-vous.
Elvire Fabry, presque le mot de la fin. Vous évoquiez tout à l'heure les réticences côté américain aussi, avec notamment celles exprimées par les différents candidats à la primaire, qu'ils soient républicains ou démocrates. Est-ce que vous pensez que le libre-échange a encore la cote aujourd'hui ? Est-ce qu'après les années folles de l'ouverture, du tout libéral, il n'y a pas un vent protectionniste qui est quand même en train de souffler aujourd'hui et qui fait que ce traité, ce TAFTA, est presque, peut-être pas mort-né, parce qu'on a fait quand même pas mal d'années de négociations, mais était en train de s'autodissoudre de l'intérieur ?
Non, je pense qu'il faut faire, il faut distinguer d'une part un certain nombre d'interrogations légitimes qu'il y a sur l'accompagnement de l'ouverture des échanges et d'autres questions plus larges aussi d'engagement économique, de stratégie, de retour à la croissance. Si on revient sur la question des chiffres, des estimations, si on constate que le Mexique, après l'accord ALENA avec les États-Unis et le Canada, a quand même signé 43 accords de libre-échange, ça n'est pas complètement innocent. Et quand on voit l'évolution du Mexique en 20 ans, ça n'est pas complètement innocent. C'est devenu une des principales économies d'Amérique latine. Les estimations qui sont faites sur les gains d'emploi, elles sont évidentes pour les PME. Et le TTIP vise plus spécifiquement le PME, les bénéfices que les PME pourraient en tirer. Et l'estimation qui a été faite côté américain, qui indique éventuellement des chiffres un peu plus négatifs, viennent d'un doctorant, donc la légitimité est peut-être un petit peu moins évidente que toutes les études qui ont été menées par ailleurs dans différents instituts.
Qui ont été payés combien par la commission ? Ces quatre études ont
non,
été
non, des études indépendantes. Il y en a une qui a été mandatée par la commission. Il y en a une qui a été mandatée par la commission.
Mathias Fekel, le mot de la fin.
L'enjeu des négociations à venir, celle-là comme beaucoup d'autres, c'est de faire des accords modernes, c'est-à-dire plus simplement des accords de libre-échange avec tout ce que ça implique et ce que ça apporte ou n'apporte pas, bien souvent, mais des accords qui intègrent la préoccupation environnementale, qui permettent la réciprocité, la mise en œuvre d'instruments de défense commerciale et qui sont tournés vers l'avenir. C'est ça l'enjeu et c'est sur ça qu'il faut travailler.
Voilà, j'aurais pas eu le temps de vous poser une question sur la directive sur le secret des affaires qui a été adoptée au Parlement en début de semaine, mais à suivre quand même à partir de mardi le procès à Luxembourg pour violation du secret des affaires d'Antoine Deltour, l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, aux côtés du journaliste français Édouard Perrin de Cache Investigation et de Raphaël Allais. Mathias Fekel, l'Euro 2016, c'est pour bientôt. Vous vous occupez aussi en partie de ce dossier via votre casquette de promotion du tourisme. Alors là, vous aurez peut-être pas grand-chose à faire pour faire venir du monde parce que c'est un événement qui naturellement draine les foules. La prolongation de l'état d'urgence est en débat en ce moment au-delà donc de l'Euro 2016. En tout cas, on sait déjà quelque chose, c'est sur quel rythme on va supporter l'équipe de France. Si l'hymne de la compétition sera signé David Guetta, les Bleus auront bientôt leur chanson officielle. Ou quelque chose comme ça, dans ce goût-là, parce qu'il s'agira d'une reprise en fait de ce tube mythique de Kiss par le groupe Skip the Use qu'on découvrira vendredi prochain. Le suspense est totalement haletant. I was made for loving you, my team. Une reprise de 79. Le patron de SoFoot, Franck Hannes, invité de Soft Power dans quelques minutes, nous dira peut-être si c'est So Euro 2016. Selon lui, dimanche et après, c'est fini pour aujourd'hui. Mais l'émission est disponible au téléchargement pendant plus d'un an sur franceculture.fr. Un grand merci à vous, Elvire Fabry. Merci Thomas Porchet et merci beaucoup à vous monsieur, merci Mathias Fekel. À la réalisation merci. Ce soir Olivier Guérin avec Pierrick Monsigny à la préparation et sur le fil des réseaux sociaux Mathias Mégy. Très très bonne soirée à tous.